Deutsche Welle Afrique 7 jours.
L'exode de centaines d'écoliers rwandais vers l'Ouganda, ils sont en quête de meilleur encadrement, mais c'est une chose qui déplaît aux autorités rwandaises. Afrique 7 jours s'y intéresse dans ce nouveau numéro. Au menu également, la rubrique Afropresse, les commentaires de la presse allemande sur des sujets africains lus et résumés par Marie-Ange Pierron. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour Fréjus.
Un bref aperçu des thèmes en attendant de vous retrouver.
Alors, on va parler de la présence militaire occidentale et notamment allemande en Afrique. Il sera question également de la Centrafrique, du Rwanda et de l'Afrique du Sud aujourd'hui.
Merci beaucoup. Voilà pour le menu d'Afrique 7 jours. Bienvenue à tous. Le Rwanda a donc entrepris de grandes réformes de son système éducatif, mais les parents d'élèves se plaignent de la qualité de l'éducation qui ne cesse de baisser. Certains préfèrent envoyer leurs enfants dans des écoles en Ouganda voisin où ils espèrent trouver une éducation stable et de qualité. Une action qui est mal vue par les autorités rwandaises qui rejettent le tort sur les parents. Précision avec Solange Ayanone.
Début février, c'est la rentrée scolaire en Ouganda, pays voisin du Rwanda. Les parents sont nombreux à accompagner leurs enfants à la gare routière de Nyabugogo à Kigali, où ils prennent les bus pour l'Ouganda. Plusieurs enfants sont encore à l'école primaire. Les parents les accompagnent jusqu'à l'école et les laissent à l'internat entre les mains des éducateurs. Les plus grands partent seuls. À la gare, ils disent au revoir à leurs parents. Cette fillette fait la quatrième primaire. Elle explique pourquoi elle étudie en Ouganda.
Je préfère étudier en Ouganda. Quand j'étais au Rwanda, je n'étais pas en mesure de parler l'anglais, mais pour le moment, je peux parler bien l'anglais depuis que j'étudie en Ouganda.
Un choix difficile à faire pour certains parents, mais qu'ils font quand même. Innocent Nagungira a 3 enfants en Ouganda. Il donne ici les raisons qui l'ont poussé à envoyer ses enfants en Ouganda.
En réalité, deux réseaux qui nous poussent à envoyer nos enfants en Ouganda, pour étudier en Ouganda. La première raison, c'est que cette affection dont tout le monde parle, réellement, du côté de chez nous, elle n'existe même pas. Parce que les parents, ils passent leur temps au travail. Donc, même les enfants qui restent au Rwanda, ils n'ont pas cette affection. Et puis, deuxièmement, c'est qu'en Ouganda, il y a une qualité d'éducation que tu ne peux pas trouver facilement ou aisément au Rwanda. L'école au Rwanda, c'est une école encore qui se cherche. On est tenté de former les enseignants. Ils se forment en anglais. Et, tandis qu'en Ouganda, ils ont tout. Ils ont du matériel didactique. Et ils ont cette facilité d'enseigner en anglais dont le Rwanda ne dispose pas. Alors, moi, je préfère envoyer mon enfant étudier dans une langue avec un enseignant ou un professeur qui maîtrise cette langue que de lui passer quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue d'enseignement.
Régine Akarikumutima est enseignante dans une école primaire de Kigali. Elle désapprouve catégoriquement cette nouvelle scolarisation des enfants en bas âge à l'étranger.
C'est une chose qu'on peut faire quand vraiment c'est la dernière option, si je peux dire. Parce que au bas âge, par exemple de la naissance jusqu'à 6 ans, 7 ans, même jusqu'à 10 ans, c'est un âge là où on doit vraiment s'occuper de son enfant, lui donner tout ce qu'il va avoir besoin à l'aide de l'amour que les parents lui portent. L'amour qu'un enseignant donne à son enfant est différent de cette personne qu'il a mise au monde.
Actuellement, plusieurs enfants rwandais étudient en Ouganda. La plupart sont encore à l'école primaire. D'autres sont à l'école secondaire. Gassana Janvier est directeur adjoint au sein d'une institution publique s'occupant de l'éducation REB.
Dans la science de l'éducation, si on veut toucher à l'accès, directement on met en question la qualité. Mm-hmm. On ne peut pas augmenter les dés à la fois parce que ça demande beaucoup de moyens. C'est pourquoi c'est le choix du pays, c'est le choix politique du pays. On a voulu tout d'abord augmenter le nombre d'étudiants, augmenter le nombre des universités. Aujourd'hui, je dirais qu'on est satisfait de l'accès de l'éducation. On a commencé alors à améliorer la qualité. Je suis d'accord avec vous que l'enseignement a besoin d'être stable. La stabilité dans l'enseignement est quelque chose qui est très important si nous voulons que on avance dans la qualité de l'éducation.
Chaque année, le nombre de parents qui envoient leurs enfants en Ouganda augmente. Actuellement, le Rwanda a décidé d'interdire l'internat à l'école primaire, d'où le recours aux écoles disposant d'internats dans des pays voisins. Solange Ayanone à Kigali pour la Deutsche Welle.
Afrique 7 jours, c'est maintenant la seconde partie avec vous, Marie-Ange Piron, un tour d'horizon des sujets africains qui ont retenu cette semaine l'intérêt de la presse allemande. On commence par le Mali où la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, a effectué cette semaine une visite éclair. Elle a notamment rencontré là-bas les soldats allemands qui participent à la formation de l'armée malienne.
Ursula von der Leyen a aussi annoncé un engagement accru de l'Allemagne en Afrique et souligne à ce propos la Berliner Zeitung. Si vraiment elle envoie en Afrique des bataillons entiers de soldats allemands, ils n'y seront pas seuls. Envoyer des troupes en Afrique est aujourd'hui à la mode chez les nations occidentales, principalement à Washington. Des milliers de soldats américains qui ont servi en Irak et en Afghanistan sont actuellement préparés à des missions en Afrique, selon le New York Times. Un autre média américain, le magazine Nation, poursuit notre confrère, affirme même que de l'Angola à la Zambie, les GIs sont d'ores et déjà présents dans 49 des 55 États africains, que ce soit comme conseillers, instructeurs ou pilotes de drones. La Berliner Zeitung évoque aussi la présence persistante de la France en Afrique. Près de 10 000 soldats français sont actuellement stationnés dans 8 pays africains. Ces dernières années, l'ancienne puissance coloniale est intervenu 4 fois sur le continent, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Centrafrique et, avec ses partenaires occidentaux, en Libye.
Mais au Mali et en Centrafrique, il n'y a pas que des soldats occidentaux. L'Afrique est elle aussi présente sur le terrain dans le cadre de missions multilatérales. Un quotidien s'intéresse tout spécialement aux soldats rwandais.
Et 20 ans après le génocide, le Rwanda a envoyé 850 soldats en République centrafricaine, relève die Tageszeitung. Cela fait 10 ans, note le journal, que le Rwanda participe à des missions de paix des Nations Unies et de l'Union africaine. Son armée passe pour disciplinée et a amassé ces dernières années une grande expérience, principalement dans les foyers de crise africains. Envoyer des troupes dans des missions internationales, poursuit le journal, a surtout un sens pour les pays qui ont eux-mêmes connu des crises. Le Rwanda, ce petit pays de 11 millions d'habitants, a une armée de 50 000 hommes. Il serait judicieux d'en réduire les effectifs, mais le taux de chômage chez les jeunes est élevé. Parallèlement, le Rwanda doit intégrer 12 000 ex-combattants Hutus bien entraînés, rentrés ces dernières années du Congo. Bien souvent, ces hommes ne connaissent que le maniement des armes.
Et 20 ans également après le génocide de Rwanda, Marie-Ange, la France juge pour la première fois un génocidaire présumé. Pascal Simbikangwa, ancien chef des services secrets rwandais, comparaît devant la cour d'assises de Paris pour complicité de génocide. Des journaux allemands s'en font l'écho.
Et la Süddeutsche Zeitung, par exemple, parle d'une justice de la mauvaise conscience. Pascal Simbikangwa, un homme maigre en chaise roulante, est certes le seul accusé dans la salle d'audience. Mais pendant les 8 prochaines semaines, estime le journal, la cour d'assises de Paris devrait aussi éclairer un sombre chapitre de la politique étrangère française, à savoir quelle est la part de responsabilité de la France dans le dernier génocide du XXe siècle. La Frankfurter Allgemeine Zeitung titre sur les remords de conscience d'une puissance protectrice. Le journal rappelle qu'à Paris, une mission d'information parlementaire avait établi en 1998 que la France avait commis de graves erreurs vis-à-vis du régime rwandais, le régime donc à l'époque du président Habyarimana. Ces reproches hypothèquent jusqu'à aujourd'hui les relations franco-rwandaises. À côté d'autres considérations stratégiques, ils ont renforcé la disposition du président François Hollande à intervenir au Mali et en Centrafrique. La conscience de ne pas avoir été à la hauteur du rôle de puissance protectrice au Rwanda a durablement marqué la classe politique française, estime la Frankfurter Allgemeine.
Pendant ce temps-là, et malgré la présence de troupes étrangères, les massacres continuent en Centrafrique.
Oui, Fréjus, et cela inspire notamment ce titre à la Süddeutsche Zeitung, Les désespérés de Bangui. Jour après jour, des gens sont tués de façon bestiale, écrit le journal. Des chrétiens assassinent des musulmans massacrent des chrétiens. Difficile dans ces conditions, estime la Frankfurter Allgemeine Zeitung, d'imaginer que les habitants de la Centrafrique puissent prochainement vivre de nouveau ensemble de façon pacifique. La nouvelle présidente, Catherine Samba-Panza, implore presque chaque jour l'envoi de plus de soldats étrangers, mais les 500 soldats de la mission militaire européenne n'auront sans doute aucun effet apaisant. Les officiers de la mission française Sangaris avouent déjà ouvertement que leurs 1600 soldats parviennent à peine à sécuriser la capitale.
Enfin, le mariage annoncé la semaine passée entre deux partis politiques sud-africains a déjà volé en éclats et la presse allemande le déplore, Marie-Ange.
La lune de miel est terminée, lit-on en effet dans la Süddeutsche Zeitung, après la fin donc de l'union entre l'Alliance démocratique de Helen Siele et le parti Agang de Manfela Ranfele. Les Sud-Africains, qui espéraient une relance de la démocratie et une campagne électorale vraiment passionnante, en sont pour leurs frais. L'alliance entre les deux partis, poursuit le journal, était un pas qui semblait changer en mieux le paysage politique de l'Afrique du Sud à quelques semaines de l'élection présidentielle prévue en avril. L'opposition divisée rassemblait ses forces. Une candidate noire et une opposante blanche faisaient front contre un président Zuma de plus en plus détesté. Après la mort du père de la nation, Nelson Mandela, le symbole du passage à une ère nouvelle n'aurait pu être plus fort, souligne le journal. Le problème est que les deux forces n'étaient pas aussi unies qu'elles voulaient le faire croire.
Afropresse, et ce sera tout pour aujourd'hui. Retrouvez l'équipe d'Afrique 7 jours la semaine prochaine, Marie-Ange Piron et Fréjus Kenhomme, avec le même plaisir.